marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
L'histoire nous transmet l'éminente responsabilité d'être à la hauteur.
Pierre Laval, 1935, la paix, mais après.
Monsieur Mussolini arrive dans un hydravion qu'il pilote lui-même. L'arrivée de Monsieur Flandin et de Monsieur Laval. L'arrivée de Monsieur MacDonald et de Sir John Simon. Les représentants de la France, de l'Angleterre et de l'Italie ont affirmé leur complet accord pour s'opposer à toute répudiation des traités et collaborer au maintien de la paix.
La conférence de Stresa, aujourd'hui bien oubliée. En 1935, alors que l'Allemagne de Hitler se prépare au réarmement, elle réunit pour la dernière fois les grands alliés de 1918. L'Italie reçoit. La France a réussi à convaincre l'Angleterre de venir, mais le résultat de la rencontre est mince. On affirme que les traités issus de la victoire ne peuvent être répudiés et on forme des vœux pour le maintien de la paix. Le ministre français des Affaires étrangères, toute cette année 1935, c'est Pierre Laval. Le Quai d'Orsay avait longtemps été l'apanage d'Aristide Briand, qui avait défendu le multilatéralisme à la Société des Nations. Mais Briand était mort, et la politique de sécurité collective s'était échouée sur le récif du nazisme. Laval était arrivé au ministère dans des circonstances tragiques. En octobre 1934, son prédécesseur immédiat, Louis Barthou, avait été assassiné à Marseille avec le roi Alexandre de Yougoslavie. Barthou incarnait une autre grande idée, l'alliance à revers. Il s'agissait de maintenir contre l'Allemagne une entente resserrée avec les pays d'Europe centrale, Pologne, Roumanie, Yougoslavie, justement. Qu'allait faire Laval de ce double héritage de Briand et de Barthou? Allait-il imaginer de nouvelles stratégies adaptées aux dangers hitlériens? Il a manqué à Laval de prendre la mesure de celui-ci. Jeune député pendant la Grande Guerre, il était resté étranger aux réalités militaires. Et ensuite, son indéracinable pacifisme ne lui avait pas permis de prendre conscience de la nouvelle donne. Il croyait que l'Europe d'Hitler, Mussolini et Staline ressemblaient, tout compte fait, à un champ de foire de sa chère Auvergne et qu'il pourrait s'arranger avec les uns et les autres. Et toper là pour la paix. La paix. Un cap, mais dans son cas, une monomanie. On en aura confirmation à Vichy en 1940.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
En compagnie de Renaud Mels, bonjour.
Bonjour Jean Lebrun.
Une biographie, il y en avait de bonnes déjà, des biographies de Laval. Mais alors là, une biographie qui surpasse toutes les autres, et par l'écriture et par la documentation. Juste un ou deux points qui marquent la qualité de votre travail, Renaud Mels, qui paraît aux éditions Perrin. Vous avez retrouvé beaucoup de choses sur la manière dont Laval a constitué sa fortune assez phénoménale, et que sa famille d'ailleurs a récupéré après la guerre, malgré la confiscation.
Oui, en effet, c'est un travail un peu de fourmi, mais j'ai eu accès notamment au dossier de l'avocat, du jeune avocat à Laval, à la fois avocat d'extrême-gauche, député, mais aussi avocat des profiteurs de guerre. C'est pas d'ailleurs une coïncidence, c'est pas tout à fait fortuit. On a recours à cet avocat d'extrême-gauche pour se laver devant l'opinion, les magistrats, et c'est une des premières pierres qui permet à Laval de s'enrichir. La deuxième, c'est un personnage complètement méconnu jusqu'à présent, assez picaresque, Amédée Siaume, un pays, un Auvergnat comme lui, qui va grandir en même temps que lui dans le monde des affaires et va fonctionner, ça va créer un binôme, l'un dans la politique, l'autre dans les affaires, et ça permettra notamment à Laval de se constituer son premier petit empire médiatique.
On résumera avec vous, la politique offre des opportunités de revenus honnêtes et de sources occultes. Et puis, un autre point qui m'a appris beaucoup de choses, je savais Laval fidèle à sa femme, Jenny, à sa fille José, mais est-ce qu'on sait qu'il avait une maîtresse?
Est-ce qu'il avait une
égérie?
Il avait une égérie, voilà. Je
trouve quelqu'un qui voulait pas prendre la place de la femme et de la fille, mais...
Exactement. Puis j'ai pas poussé la porte de la chambre à coucher, ou plutôt de la garçonnière de Clermont-Ferrand. Mais il est évident que cet écrivain qui écrit sous ce nom de plume de Jean Durtal, qui est en fait Charlotte Charpentier, a été très proche de Laval, et a écrit des mémoires un peu déguisées sous ce nom de plume de Jean Durtal, qui, sous couvert de parler, de faire une chronique de la France de l'entre-deux-guerres, est en fait le récit de leur relation en particulier.
Donc, Laval, un mystère français, on va dire que c'est un livre océanique pour un personnage on ne peut plus terrien.
Pierre Laval commença ses études à l'école communale de Châteldon. Avocat, député, sénateur, ministre, président du conseil, il reviendra toujours dans son village où il a construit son foyer avec la fille du maire, non loin de sa maison natale, aujourd'hui maison des postes de ce village d'Auvergne qui a su garder son âme.
À Paris, il se fait connaître comme l'avocat des pauvres. Quand il se présente avec sa tête de bohémien, on le traite de sidi, de franc-maçon, de juif algérien. En 1914, aux législatives d'Aubervilliers, les syndicats insistent pour l'avoir comme candidat. Le journal L'Humanité titre « Horoscope du Benjamin du groupe socialiste ». Il fera son chemin.
Un texte de René de Chambrun, le gendre pendant l'occupation, et la voix de Bertrand de Solier qui a co-réalisé un film sur les carnets de José de Chambrun, la fille. Aubervilliers, député de Saint-Denis et de la circonscription alentour en 14, maire d'Aubervilliers depuis 1923. Alors, vous expliquez, Renaud Melz, qu'il a des lunettes à double foyer, Châteldon en Auvergne, le village, Aubervilliers, le cœur de la misère de la banlieue parisienne, mais qu'en même temps, matière étrangère, c'est ça qui veut nous intéresser aujourd'hui, il voit pas très loin.
Non, c'est un patriotisme centripète. Laval est très marqué par la guerre, il est sincèrement pacifiste, il y a un fil rouge dans sa vision du monde, c'est le pacifisme. La guerre ne profite à personne. Et il n'a pas d'ambition mondiale pour la France. Il n'a surtout pas une conception, comment dire, spirituelle. Ça ne lui viendrait pas à l'idée d'écrire « Je me suis fait une certaine idée de la France ». La France est un patrimoine matériel. Ce sont des champs, ce sont éventuellement des faubourgs qu'il appréhende comme finalement une sorte de mal moderne. Ce qu'il aime, c'est son foyer, son heimat, sa petite patrie châteldonnaise. Et il n'a pas d'intérêt pour l'étranger. Et quand il est aux affaires, il arrive une première fois à la tête en 31 d'un gouvernement où Briand vieillissant, ne s'occupe plus tellement de la politique étrangère. Il est heureux de bénéficier du prestige mondial de la France, de sa force, de sa prospérité. Mais très vite, dans l'année qui va nous intéresser, puisqu'on va parler visiblement surtout de l'année 1935, on va voir un Laval qui préfère s'intéresser à la politique étrangère d'un point de vue très local, c'est-à-dire essayer de sortir la France des conflits européens.
Le mot « Europe » lui est un peu étranger, le mot « humanité » lui est un peu étranger, dites-vous.
Oui, disons que c'est pas...
L'universalité.
C'est pas un homme qui résonne en termes, voilà, de l'universalité. C'est pour ça que j'ai mis la phrase de Fénelon en exergue de ce livre. C'est-à-dire, quelqu'un qui s'intéresse d'abord à sa famille, à son foyer, et puis à son village, à sa région. Et voilà. En dernier recours, on peut s'intéresser à l'humanité, mais c'est une vision, encore une fois, très centripète du monde.
Avant 35-34, 34 février, les émeutes qui ont failli faire tomber la République, un gouvernement d'union nationale de Doumergue, à Pétain, c'est le premier test de Pétain au gouvernement. Laval, dans un premier temps, est aux colonies, mais voilà que le titulaire des affaires étrangères, Barthou, va être assassiné au moment où il reçoit à Marseille l'un des alliés qui compte le plus pour lui, le roi Alexandre de Yougoslavie. Un photographe témoin raconte en 1956.
Je fonce et j'arrive à la portière du roi où je trouve déjà un de mes collègues, mon camarade Bâton, qui avait un matériel peu pratique, peu confortable, avec un pied qui tournait à la manivelle, et qui me dit, car c'est un titi, il me dit, tu sais, il n'y a rien à faire, il ne veut pas me regarder. Ah, je lui dis, mon pauvre vieux, mais il faut te dire aussi, tu ne sais pas t'exprimer, tu ne sais pas parler au roi, tu vas voir. Et à la portière, tous les deux, nous poussons un peu, car ce n'était pas large, nous nous mettons à tourner, et en même temps, moi, qui avais un appareil automatique, je disais, majesté, 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 ayez l'obligeance de regarder, je vous prie. Majesté, naturellement, le roi ne me comprenait pas, il parlait avec monsieur Barthou, mais excédé par cette demande continuelle, il finit par se retourner vers nous. Et là, il eut une expression extraordinaire d'angoisse, d'inquiétude, en voyant ces deux énergumènes, de la presse, c'est entendu, mais travaillant librement à 1m25 de lui, appareil braqué. Il a une expression d'appréhension.
Il avait raison, le roi Alexandre, quand la voiture se met en branle au bas de la Canebière, à peine protégée, c'est l'attentat, le roi disparaît. Et Louis Berthoud, dont on s'occupe moins que du roi, meurt aussi. Et c'est ainsi que Laval devient ministre des Affaires étrangères. Alors, ministre des Affaires étrangères, qui connaît, disiez-vous, assez mal l'étranger, malgré ses déplacements de 1931 aux États-Unis, en Allemagne ou à Londres. Ses collaborateurs, c'est pas vrai ça, ses collaborateurs lui glissent des cartes dans ses dossiers pour qu'il comprenne de quoi il retourne.
Oui, il les envoie balader. C'est vrai que c'est pas un homme de dossier, c'est quelqu'un qui a une culture auriculaire, c'est quelqu'un qui aime parler, qui aime recevoir l'information oralement, qui craint le rapport écrit. Il a des préventions qui sont pas complètement injustifiées. Il sait très bien qu'en diplomatie, on a tendance à vous servir ce qu'on veut vous entendre, ce qu'on veut entendre. Donc, il se méfie beaucoup du rapport écrit. Claudel le dépeint très bien comme un bel animal politique, mais qui ne sait ni lire ni écrire. Il deviendra graphomane à la fin de sa vie. Hein. Il aura une espèce de manie de l'écriture pour se justifier dans son exil à Sigmaringen, puis dans sa prison de Fresnes. Mais c'est vrai que dans les années 30, quelqu'un qui non seulement n'écrit pas, mais ne lit pas, il a des informateurs. Il a évidemment le Quai d'Orsay, et il est plus ou moins bien informé directement par les ambassadeurs. Il a des contacts avec les journalistes, il reçoit beaucoup les journalistes étrangers. Et puis là, sur chacun des pays, parce qu'il se méfie de son information diplomatique, des informateurs qui doublent, c'est par exemple Sadoul sur la Russie, Brinon qui joue un rôle très important sur l'Allemagne.
Qui sera un grand collaborateur. Alors l'Allemagne, Laval, il a tendance à considérer Hitler comme quelqu'un qui pourrait ressembler, je sais pas, au brigadier de gendarmerie de Puy-Guillaume, Puy-de-Dôme, la petite ville à côté de son village de Châteldon. Janvier 1935, il est déjà aux affaires, le petit territoire de la Sarre, sur la rive gauche du Rhin, qui est sous administration de la Société des Nations, voit s'organiser un plébiscite. Va-t-il rejoindre l'Allemagne devenue nazie? Vindel, dont on parlait l'autre jour, vient plaider auprès de Laval la cause d'une Sarre française. Mais le plébiscite ne va pas correspondre au désir de l'industriel.
11 janvier. À Sarrebruck, de nombreux trains amènent les Sarrois résidant à l'étranger. Des sections de jeunes nazis ont été organisées pour accueillir dans les gares les Sarrois arrivant de l'étranger. À la dernière heure, des affiches de propagande sont placardées. Des pancartes recommandant le calme et le silence sont promenées dans les rues. Les troupes internationales, tanks, automitrailleuses, cavalerie parcourent les rues. Les citoyens Sarrois défilent dans les bureaux de vote. Après la fermeture du scrutin, les urnes enfermées dans des caisses sont transportés à Wartburg, où doit avoir lieu le dépouillement.
90% des voix pour le rattachement à l'Allemagne nazie qui commence à préparer, cette année 35, son réarmement. Et il reste le fusil au pied, Laval, lui, devant cette échéance?
Laval a devancé d'une certaine façon et il a devancé cet échec contre les estimations de ses diplomates. Il y voit une confirmation de sa clairvoyance. C'est d'ailleurs un des problèmes principaux de Laval. Il se voit comme un être purement rationnel, qui raisonne selon le bon sens, qui n'est pas partisan, qui n'est pas otage des idéologies, des fascistes, contre-fascistes. Il prend l'Allemagne telle qu'elle est et croit-il, parce qu'il a une vision très peu historique des choses, il pense que les Allemands relèvent des mêmes lois psychologiques qui sont pour le coup universelles. Mais ce résultat, il l'a vu venir. C'est vrai qu'il a une forme d'intuition. Il n'a rien fait pour infléchir le résultat. Il n'a pas notamment essayé de relayer la défense des catholiques anti-hitlériens dans la Sarre. Et il est finalement happé par cette passion d'avoir raison qui devient un sentiment magique. C'est-à-dire qu'on croit qu'on est en pleine rationalité avec Laval. En fait, il a une vision de lui-même qui devient totalement magique.
Renoncement de la Sarre, renoncement à l'article 5 du traité de Versailles et début du réarmement par Hitler, sans vraiment de réaction. Vous décrivez le comité militaire qui se réunit une ou deux fois par an à l'automne 1935, et Laval étonne même le maréchal Pétain qui en est membre par sa désinvolture sur ce sujet.
En fait, il y a une forme de cohérence. C'est-à-dire, curieusement, Laval, en 31, est plutôt dur avec l'Allemagne. L'Allemagne faible de Brüning qui vient mendier en juillet 31, au moment où se négocie le moratoire ouvert, une aide. Laval lui dit « je vous aiderai si… » et puis il met les contreparties politiques qui fait que c'est impossible. Avec Hitler, avec l'Allemagne de Hitler, il est dès le départ et il restera cohérent. dans une politique de souplesse, de rapprochement. Dès quand il est ministre des colonies dans le gouvernement d'Oumergue dont vous parliez, quand Barthou est encore ministre des Affaires étrangères, tout le cabinet est d'accord pour rejeter la proposition de Hitler de se réarmer progressivement d'une façon négociée avec une armée de 300 000 hommes. Laval est le seul à dire qu'il faut accepter. Tout le monde refuse. Et Laval va montrer une vraie permanence à dire de toute façon, il faut s'entendre avec l'Allemagne. On n'a pas le choix. Et peut-être que le mieux à faire, c'est de s'approcher de l'Allemagne ayant quelques garde-fous. D'où les relations avec Mussolini ou avec Staline qui ne sont là que pour mieux approcher Hitler. Mais il se fait aucune illusion. Il ne veut pas la guerre. Et c'est ça d'ailleurs qui est terrible pour les diplomates ou les militaires, c'est que Gamelin, par exemple, ressort de ce conseil effondré parce qu'il comprend que les Allemands savent désormais que la France avec Laval ne fera pas la guerre et qu'il n'y a plus de dissuasion possible.
Chez Perrin, on peut recommander votre livre en omel sur Laval et puis aussi les entretiens oubliés d'Hitler donnés à la presse internationale et qui viennent d'être republiés. Et puis, la maison Artaud, elle, publie une biographie de Xavier de Hauteclocque, qui était un journaliste bien informé sur l'Allemagne, si bien informé qu'il semble que le régime nazi, au printemps 1935, avait choisi de l'empoisonner. Alors, on parle toujours de Châteldan, il faut parler un peu d'Aubervilliers. Je vais vous dire pourquoi on va parler de nouveau d'Aubervilliers, dont il est maire depuis 1923. Ça, c'est une chanson de Prévert, un peu tardive. On entendra plus d'une fois Prévert dans cette émission.
Furtive comme un petit rat d'Aubervilliers, comme la misère qui court les petites rues d'Aubervilliers. L'eau courante court sur le pavé d'Aubervilliers. Elle se dépêche, elle est pressée. On dirait qu'elle veut échapper, échapper à Aubervilliers, pour s'en aller dans la campagne, dans les prairies et dans les forêts, et raconter à ses compagnes les rivières, les bois et les prés. Les simples rêves des ouvriers d'Aubervilliers.
Oui, alors Hitler est là de plus en plus puissant en 1935. L'idée peut venir d'un redressement par l'Est, d'une compensation, enfin d'une alliance peut-être avec Staline. Alors Laval dit, ah ouais, ça c'est une bonne idée parce que ça va jouer un bon tour à mes adversaires communistes d'Aubervilliers.
Ah, je vais rendre le métier difficile aux camarades, dit-il à Louise Weiss. Oui, il y a toujours ce problème d'entremêler la politique intérieure avec la politique étrangère. Et très souvent, il voit la politique étrangère à travers son prisme d'intérêt. C'était déjà le cas en 31. En 31, il a très clairement pris un tournant nationaliste pour maintenir sa majorité qui s'est frittée à droite. Là, c'est effectivement pour empêcher la mise en place d'un front populaire. Et ça fonctionne dans un premier temps. Ça marche toujours très bien au début parce que il est malin, ce Laval. Et dès les négociations ouvertes au printemps 35 pour un pacte d'assistance mutuelle, il fait venir Rosenberg, qui est conseiller ambassade de Moscou à Paris.
Un vin d'honneur pour les élections sénatoriales.
Vous avez 700 pecnos d'Aubervilliers qui sont là, et ils voient arriver qui ? Rosenberg, un dignitaire qui s'éclipse assez vite. Mais ça y est, Laval a marqué le coup. Désormais, il y a un coin entre le Parti communiste et la politique de l'Union soviétique.
Et Rosenberg qui s'éclipse assez vite, le dignitaire soviétique, il sera éclipsé pendant les grandes purges. Parce que est-ce qu'il sait très bien qui est le camarade Staline, Pierre Laval, qui va lui rendre visite ?
Le ministre des Affaires étrangères français est accompagné de Mademoiselle Laval, de Monsieur Alexis Léger, secrétaire général du Quai d'Orsay, de M. Rocha, chef de son cabinet. Accompagné de M. Potemkin, ambassadeur de l'URSS à Paris, M. Pierre Laval vient rendre visite à M. Staline et Molotov. L'entretien des deux hommes d'État a lieu dans le cabinet de M. Molotov, président du Conseil des commissaires du peuple. M. Staline se rend au Kremlin, où il déjeunera avec le ministre français.
Bah, au fond, dit-il, c'est un mec comme moi, Staline, parce que j'ai été socialiste, moi aussi, à mes débuts. C'est un homme du peuple, je vais le comprendre, il va me comprendre.
Oui, finalement, c'est peut-être celui pour lequel il a le plus d'estime de tous ces bonhommes, dont il sait bien que les régimes intérieurs ne lui conviennent pas tellement. Sur Hitler, il est renseigné depuis 1932 par Friedrich Minou, notamment. Sur Staline, oh ben, il se fait aucune idée sur les bolcheviks. Il était pendant la guerre, il a déjeuné avec Kerensky, il a vu ce qui s'était passé pendant la révolution soviétique, il a une peur bleue de l'Union soviétique. Mais enfin, Elle est loin et elle peut faire peur à Hitler. Et d'ailleurs, c'est un angle d'attaque de la propagande de Ribbentrop, de Goering, de tous ceux qui vont rencontrer Laval dans ces années-là. C'est-à-dire, nous avons un ennemi commun, c'est Staline. Alors Laval joue la carte Staline pour faire un peu peur aux Allemands. Ceci dit, il va effectivement être impressionné par la personne de Staline. Je décris dans l'ouvrage la façon, dans une espèce de mimétisme assez amusant, physique, dans les gestes, dans la façon de se déplacer, pendant les quelques journées de mai 1935, où les deux hommes se rencontrent à Moscou.
Laval, il imite les gestes de Staline sur les photos.
Je dirais que Laval a une conscience très précoce de sa disgrâce physique, on va dire, et qu'il est du coup un charmeur assez habile et qui sait très bien trouver le bon ton. Et il comprend avec Staline comment il faut faire, quelque chose d'un peu bonhomme, mais de rentrée. Oui, sur les photos, on voit vraiment un mimétisme très troublant dans la gestuelle, les regards, les rires. Ceci dit, ça n'empêche pas Laval, à peine rentré à Paris, de renier largement la négociation.
Alors la négociation, elle portait sur quoi? Possible alliance militaire contre
techniquement, c'est un pacte d'assistance mutuelle. Laval a bien tenu en amont à faire intégrer au pacte un recours à la Société des Nations. C'est-à-dire qu'avant d'avoir un arbitrage entre les deux puissances, la Société des Nations interviendra. Donc finalement, c'est déjà peu de choses. En revanche, des discussions d'état-major sont prévues. Mais d'abord, il faut commencer par ratifier. Or, pendant toute la durée, jusqu'à la fin, jusqu'à sa chute, Laval fait en sorte de ne pas ratifier aux chambres, que ça ne sera fait qu'en février et en mars à l'Assemblée, puis au Sénat.
Avec un autre gouvernement que le sien. Enfin bref, Staline, il a peut-être été content de voir Laval poser les mains sur son ventre, comme lui même le fait, mais il n'a pas tellement confiance en son interlocuteur. C'est une année de voyage incessant pour Pierre Laval, et j'imagine que sa fille Josée était du déplacement à Rome, notamment de l'audience chez le pape, et qu'elle avait mis sa plus belle mantille. Le pape, comment il s'appelle? Parce qu'il paraît que Laval a posé cette question. Il savait pas le nom du pape.
Alors, non. Vous savez, les diplomates aiment bien moquer Laval. Sur le moment, j'ai retrouvé des correspondances. C'est le Quai d'Orsay a retrouvé récemment des correspondances, notamment d'André François Poncet, où on voit les diplomates caresser dans le sens du poil Laval. Hein, ils sont quand même extrêmement dociles.
Mais dans les dîners en ville, ils se moquent de lui.
Plus féroce, sans doute. Oui, léger, se moque beaucoup de lui. François Poncet aussi, mais. La machine du Quai d'Orsay, tout en étant pleine de morgue pour cette arriviste qui ne leur ressemble pas, joue le jeu, notamment de ces accords de Rome.
Alors attendez, on n'en est pas encore à l'accord. On en est à la visite chez le pape, si vous voulez bien.
On en est à la visite chez le pape.
Et en fait, il savait qu'il s'appelait Pionze. Il a mis sa plus belle cravate blanche. Il ne quitte jamais sa cravate blanche, mais les diplomates disent, évidemment, comment fait-il pour la tenir propre? Parce que il se sert de ses mains comme fourchette et de sa fourchette comme cure-dent. Et il est là, pendant qu'un domestique se glisse. C'est encore un texte de Prévert.
Il traverse les salons. Tu parles d'un Bobinard, mon vieil Edmond. Quel bordel, Madame Adèle. Quel boxon, Monsieur Léon. Il glisse sur le parquet ciré, sa lanterne à la main. Il glisse si vite qu'on dirait un train. Et le voilà qui écrase quelqu'un, un affreux. C'est un affreux vêtu de noir, une mèche de pétrole à la place des cheveux, la cravate blanche, les pieds douteux. Le veilleur de nuit s'enfuit. Laval se relève et ses poussettes. Un valet s'empresse. Monsieur le comte. Et monsieur le comte, Laval demande au valet si la mule du pape est visible et comment il faut s'y prendre pour la baiser selon le protocole. On amène une mule d'essai et l'homme d'État et la bête restent seuls en tête à tête.
Serge Reggiani dit Prévert, oui, le pape Pie XI, rappelons son nom, a fait Laval comte du Vatican. Bon, vous avez une lecture inversée du rapport entre la bête et Laval. Moi, je dirais que le tête-à-tête qui importe, c'est celui avec Mussolini. Alors, Mussolini.
Ah bah voilà encore un homme qui ressemble, et d'ailleurs Blum lui-même est frappé par la ressemblance de ces deux hommes venus de l'extrême gauche.
C'est un peu un type comme moi.
C'est un peu encore un type comme moi. D'ailleurs, Laval sait très bien le dérider. Quand il lui parle des territoires aux confins de la Libye désertique qu'il va lui céder, Mussolini dit c'est le désert. Laval dit non, regardez, là il y a deux villes. Regarde sur les cartes, il y a à peine une oasis. Et Laval dit oui, attendez, évidemment, ce n'est pas Rome ni Aubervilliers. Et ce trait d'humour plaît bien à Mussolini. Et effectivement, il y aura une bonne entente. Ceci dit, Laval va beaucoup louvoyer dans les semaines qui suivent.
Vous mais alors, Mussolini, il veut la Libye, les sables. Et il veut plus qu'une zone d'influence en Éthiopie. Et Laval cède l'influence que la France pourrait avoir sur l'Éthiopie, disant, bon, on a le train entre Djibouti et Addis Abeba, ça nous suffit, et puis pour le reste, vous débrouillez avec les Anglais.
Dans le premier son que vous avez diffusé, on était à Streza en avril 35, et le communiqué final qui est cité coupe la fin de la phrase. On parle de maintien de la paix, et Mussolini a voulu maintenir en Europe, ajouter en Europe, parce qu'il sait déjà à ce moment-là qu'il va faire ce qu'il va faire à l'automne 35, à savoir rentrer en Éthiopie. On a beaucoup, et je donne quelques éléments supplémentaires déjà commentés, ce qui se trame dans ces journées de Rome. On est tout près d'aboutir, mais il manque un petit morceau, et c'est vraiment du bilatéral. C'est tout ce qu'aime d'ailleurs Laval, contrairement au wilsonisme de sa jeunesse. C'est diplomatie secrète et bilatérale, pas du multilatéralisme et pas de la diplomatie à la place publique.
Quand vous dites rentrer en Éthiopie, ça veut dire occuper militairement l'Éthiopie, gouvernée par le Négus, dernier pays indépendant d'Afrique. Oh, ce nègre, dit Laval à propos du Négus, ce nègre, il nous empoisonne. Et Mussolini hausse le ton. Il ne faut pas abuser de notre patience, nous avons droit à l'Éthiopie. Alors voilà, Laval est extrêmement embarrassé parce que les Anglais avec qui il ne veut pas rompre ne veulent pas de l'occupation de l'Éthiopie par les Italiens.
Laval passe plusieurs mois à se délecter de son rôle d'arbitre jusqu'au moment où il se rend compte, notamment en septembre puis en octobre, quand les Italiens effectivement commencent la guerre en Éthiopie, considérer que c'est pas si simple. Ce qui désole le Quai d'Orsay, c'est que ce Laval, qui se veut un très grand diplomate, un fin négociateur, va finir par mécontenter tout le monde, accepter finalement, sous la pression anglaise, de suivre le vote des sanctions, mais sans rien obtenir en échange. Le Quai d'Orsay dit... Bien sûr qu'on va aller du côté du Foreign Office. Bien sûr que le poids diplomatique et militaire britannique est bien supérieur à ce que peut nous offrir Mussolini. Mais profitons-en pour obtenir enfin la garantie anglaise pour toutes les frontières orientales de l'Allemagne. N'ayons pas seul le fardeau de toute l'Europe centrale, la petite entente et la Pologne à tenir. Donc faisons un peu de troc. Or Laval va si mal gérer son affaire qu'il va mécontenter les Anglais, qui finissent par négocier un accord dit Laval-Hoare, mais...
Négociateur anglais,
mais... Et l'opinion publique anglaise et l'opinion publique française vont finalement faire capoter ce projet d'arbitrage qui sera fatal aux deux, à Samuel Hoare comme à Pierre Laval, qui a renversé largement sur cette question éthiopienne.
En janvier 1936, il ne reste rien de l'héritage de Briand, pas grand-chose de l'héritage, la petite entente, l'encerclement par l'Europe centrale de Louis Barthou, et Laval ne laisse pas d'héritage. Alors, il ne croyait pas beaucoup en la démocratie, il ne croyait pas du tout en l'universalité. Il va quitter le pouvoir et ne le retrouver qu'en 1940, à la faveur des circonstances que l'on sait. Il ne croit plus beaucoup au mécanisme républicain à partir du moment où il est renversé en janvier 1936.
Il y a depuis longtemps des phrases assez ambivalentes sur la démocratie qui est à la fois lente, qui a des processus de décision en matière de politique étrangère extrêmement compliqués face aux dictateurs. En même temps, il est aussi attaché à l'opinion publique, à la liberté d'expression. Mais très clairement, dans l'amertume de la perte du pouvoir à partir de 36-37, il milite, il le dit clairement, pour une république forte. Ça sera plus tard, sous l'occupation, son slogan qui fera beaucoup ricaner, de la république musclée. Et on représentera le petit Laval trapu avec des gros biceps. Mais effectivement, la défaite qui consacre sa vision, parce qu'il a vu tout ça venir, il a été anti-munichois, il a prévu que Hitler allait se renforcer progressivement. Cette défaite consacre pour lui celle, effectivement, de la République, dont il est pourtant un enfant qui doit beaucoup.
Merci à vous, Renaud Mels. Votre biographie formidable à tous les sens du mot, c'est chez Perrin, Pierre Laval, un mystère français. L'émission a été préparée par Frédéric Martin et Franck Olivard et Nolwenn Bocry. À la technique, Jérémy Guillon. La réalisation, c'était Audrey Ripouille.